Donc vous avez certainement, probablement déjà joué à un jeu de société qui s'appelle Destin, le jeu de la vie. Ça vous dit quelque chose? Ouais. On n'y joue plus trop à ce jeu, hein. Mais je me rappelle d'une époque où on y jouait beaucoup. C'est un jeu de plateau, si vous ne connaissez pas, un jeu où on doit aller de la case départ à la case arrivée. Jusqu'ici, rien de bien original. Mais pour accéder, pour arriver à la case arrivée, on doit franchir toutes les étapes de la vie qui sont représentées sur le plateau. Études, mariage, profession, enfant, retraite. Et c'est un jeu très très moral, puisqu'à la fin, le gagnant, c'est celui qui a réussi à accumuler le plus de richesses pendant sa vie. C'est bien, hein? Mais au début du jeu, il y a une question cruciale qui se pose pour chaque joueur. Et cette question, c'est la suivante. C'est est-ce que je choisis de faire de longues études ou des études courtes? Si je fais de longues études, je vais prendre plus de temps avant d'entrer dans la vie active et commencer à m'enrichir. Mais je pourrais m'enrichir plus parce que j'aurai un meilleur métier. Ouais. Tandis que si je fais des études courtes, je pourrais rentrer plus rapidement dans la vie active et commencer plus vite à accumuler des richesses, mais ce sera un moins bon métier qui rapportera moins. Et puis en fonction de ça, enfin, les règles sont un peu compliquées, mais après on va payer plus ou moins d'impôts, on aura plus ou moins d'avantages tout au long de la partie. Bref, c'est un jeu qui ressemble quand même pas mal à la réalité. D'ailleurs, c'est un jeu assez stressant, j'avais pas trop aimé moi. Mais c'est vrai que ça soulève des questions qui se posent vraiment dans la vraie vie, hein. Comment choisir la route à prendre, surtout quand on est un jeune adulte, comme c'est votre cas à tous autour de cette table. Devenir médecin ou technicien, hein? Études de psychologie ou de musicologie, stage à l'étranger ou apprentissage sous-payé, se marier et avoir des enfants ou vivre libre longtemps. Et puis il y a cette petite voix. Il y a cette petite voix qui se fait entendre de temps à autre, n'est-ce pas? Et pourquoi tu ferais pas des études de théologie? Pourquoi tu deviendrais pas pasteur? Pourquoi tu t'engagerais pas dans un ministère à temps plein pour le Seigneur? Même sans devenir pasteur, pourquoi tu ne deviendrais pas un secrétaire itinérant régional du GBU, tu vois? Pourquoi tu ferais pas quelque chose comme... Pourquoi tu irais pas en mission en Afrique pendant quelque temps? Pourquoi tu irais pas en Inde? Comment faire le bon choix? Quelle vocation Dieu nous adresse-t-il? Bon, dans le texte qu'on va lire, Colossiens 3, versets 17 jusqu'à 4, verset 6, on va voir que la question de notre future situation, future ou présente, hein, d'ailleurs, situation professionnelle ou familiale, importe moins pour Dieu que la qualité de notre vie. Notre situation familiale ou professionnelle importe moins pour Dieu que la qualité de notre vie. En d'autres mots, Dieu ne nous dit pas tant quoi faire de notre vie que comment le faire. Ça, c'est la leçon de ce texte. Il ne nous dit pas tant quoi faire de notre vie que comment le faire, et il veut tout simplement que nous le fassions bien. Donc, on va lire le texte qui nous invite à reconnaître quatre choses qu'on va voir successivement. D'ailleurs, toutes mes interventions lors de ce week-end auront quatre points. Donc, deuxième intervention, quatre points toujours. Premièrement, il faut reconnaître la prééminence de Christ. Deuxièmement, reconnaître la diversité des vocations dans le royaume de Dieu. Troisièmement, reconnaître la nécessité de la prière. Et quatrièmement, reconnaître la nature de notre témoignage. Donc on va revenir là-dessus au fur et à mesure. D'accord? Je vais lire le texte. Colossiens 3, à partir du verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. D'accord. La première chose qu'on voit dans ce texte, verset 17, le premier verset que j'ai lu là, c'est Paul ici qui tire une application concrète ou une conclusion, si vous voulez, une conséquence de tout ce qu'il a dit depuis le début de l'épître. D'accord ? De tout ce qu'il a dit depuis le début de l'épître, il va en tirer une application concrète ou une conséquence. Et ce qu'il a essayé de démontrer depuis le début de l'épître aux Colossiens, c'est tout simplement la prééminence de Christ, de Jésus, dans tous les domaines de l'existence. Et par conséquent, en raison de la prééminence de Jésus dans tous les domaines de l'existence, par conséquent, il y a un changement radical que la foi en Jésus doit entraîner chez les croyants. Quand quelqu'un devient chrétien, sa vie tout entière est placée sous le signe de son attachement à Jésus. Sa vie tout entière, tous les domaines de sa vie, études, travail, vie de famille, loisirs, etc. Il n'y a pas un domaine de la vie du chrétien qui échappe ou qui se soustrait à la prééminence de Jésus. Il n'y a pas un domaine de la vie du chrétien qui n'est pas concerné par Jésus ou qui ne concerne pas Jésus. D'accord ? Voilà pourquoi je disais, premièrement, il est important pour nous de reconnaître la prééminence de Christ dans tous les domaines de notre existence, ce qui nous permet ensuite, et notamment pour la question qui nous intéresse, quelle est ma vocation, qui va nous permettre ensuite de garder la bonne perspective sur notre vie. Donc vous voyez qu'on est déjà dans le prolongement de ce qu'on a vu ce matin. Garder la bonne perspective, la bonne vision du monde, la bonne vision de notre propre vie. Si on est croyant, Christ est prééminent. Il est prééminent, on le sait, dans le monde entier, plus forte raison, dans notre vie tout entière. Il faut qu'on maintienne cette perspective sur notre vie, ce qui va nous permettre aussi de maintenir les bonnes priorités dans notre vie. D'accord ? Les chrétiens n'ont pas le même rapport à leur vie, ou à leur avenir, et à leurs activités, quelles qu'elles soient, que les non-chrétiens. Parce que les chrétiens sont dans une situation radicalement différente de celle des non-chrétiens. D'accord ? Si vous rencontrez un jour quelqu'un qui, en discutant avec cette personne, vous apprenez que cette personne a changé de métier récemment, mais non seulement elle a changé de métier, elle a changé de pays, elle a changé de conjoint, elle a changé de langue, elle a changé de culture, elle a changé de nationalité, elle a changé de nom, elle a changé de sexe. Donc là, vous vous dites, cette personne, dis donc, elle a connu un changement assez important ces derniers temps, un changement radical. Le changement qu'entraîne la foi en Jésus est encore plus radical. La Bible dit qu'on était tous morts par nos fautes et par nos péchés, hein, indépendamment de nos origines, de notre éducation, de notre métier, de nos loisirs, de notre religion, de notre sexe. Mais la Bible ajoute que, dans son amour, dans sa miséricorde, Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus, hein, par pure grâce, si on a placé notre confiance en lui. C'est un changement radical. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Christ Jésus. Comme quoi notre attachement à Jésus est quelque part plus important que notre sexe. Et tout cela nous permet de dire aujourd'hui que on parlait ce matin de la plus grande séparation qu'il fallait faire, la plus grande distinction qu'il fallait faire dans le monde, d'accord, entre ce qui est créé, ce qui n'a pas été créé, Dieu, et ce qui a été créé, c'est-à-dire tout le reste. Et ben maintenant, on va parler de la plus grande division au sein de l'humanité, la plus grande séparation, la plus grande distinction au sein de l'humanité ne se situe pas entre les hommes et les femmes, par exemple. La plus grande division au sein de l'humanité se situe au niveau de la relation que l'on a ou non à Jésus-Christ. C'est ça qui compte plus que tout. Jésus est à ce point prééminent, vous voyez. Et c'est ça que Paul a essayé de transmettre à ses lecteurs depuis le début de l'Épître aux Colossiens. Imaginez l'effet que ça fait, d'entendre, et non seulement d'entendre, mais de croire aussi les affirmations suivantes que Paul a faites. Premier chapitre. Le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors si tu entends ça et tu le crois, ça fait de l'effet, non ? Puis deuxième chapitre. En Christ, donc celui dans le royaume duquel on a été transporté, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Enfin, c'est C'est énorme, d'accord? Puis troisième chapitre. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est radical, non? Alors c'est sur ce genre d'enseignement que repose le verset 17, où Paul dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Conséquence logique de son enseignement sur la prééminence de Jésus dans tous les domaines de notre vie. Alors qu'est-ce que vous êtes, vous, en premier? Vous êtes d'abord quoi, hein, Maïlys? Tu es d'abord une étudiante en médecine ou tu es d'abord une chrétienne, tu vois? C'est ça la question. Tu es d'abord un physicien ou d'abord un chrétien? D'abord un garçon ou d'abord un chrétien? C'est quand même ça va loin. On est d'abord, notre identité repose d'abord sur notre attachement à Jésus-Christ. On est en lui. Donc on est d'abord des chrétiens, vous l'avez compris, avant d'être ce qu'on est, ce qu'on fait. Avant d'être pasteur, je suis chrétien. D'accord? Avant d'être logisticienne, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je suis chrétienne. Voilà. D'accord? Donc premièrement, reconnaître la prééminence de Jésus-Christ pour avoir la bonne perspective sur le reste de notre vie. Deuxièmement, reconnaître la diversité des vocations dans le royaume de Dieu. Et donc là, ce qui va se passer à partir du verset 18 et jusqu'au début du chapitre 4, verset 1 du chapitre 4, Paul va énumérer toute la liste des situations de vie les plus courantes chez ses lecteurs. Donc il va faire une liste un peu sommaire, il généralise, mais bon, il énumère quand même les situations les plus courantes. Et pour chaque situation, il va livrer des instructions brèves, concises, propres à chaque situation. D'accord? Femme, soyez soumise, mari, aimez, enfant, obéissez, père, n'irritez pas, serviteur, obéissez, etc. D'accord? Mais ce qui est frappant dans ces 9 versets, on va pas les développer tous en détail, il y aura des choses à dire, hein, pour chaque situation bien sûr, mais c'est pas le but ce soir. Ce qui est frappant dans ces 9 versets, c'est la façon dont Paul ici multiplie les références au Seigneur. Au Seigneur. Alors que jusqu'à présent dans l'épître aux Colossiens, il s'est référé à Jésus en employant le titre de Christ. Il a utilisé le mot Seigneur pour désigner Jésus jusqu'ici que 3 fois avant ce passage dans toute l'épître, tandis qu'il a utilisé plus de 20 fois le mot Christ. D'accord? Donc premier, deuxième et troisième chapitre jusque-là, 20 fois le mot Christ, seulement 3 fois le mot Seigneur pour désigner Jésus. Et maintenant, on trouve tout d'un coup le mot Seigneur presque à tous les versets. Hein? Verset 18, comme il convient, dans le Seigneur. Verset 20, cela est agréable, dans le Seigneur. Verset 22, dans la crainte du Seigneur. Verset 23, comme pour le Seigneur. Verset 24, vous recevrez du Seigneur. C'est étonnant, non? Ce que Paul est en train de montrer ici, évidemment, s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a dit au verset 17, où là aussi, il a mentionné Jésus par son titre de Seigneur. Et ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici, c'est que quelle que soit notre situation de vie, Jésus est le Seigneur de cette situation. Quelle que soit notre situation de vie, Jésus est le Seigneur de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il est prééminent dans tous les domaines de la vie. Il n'est pas seulement le Seigneur d'une catégorie de personnes, il est le Seigneur des pasteurs. Non. Il est le Seigneur des maris. Il est le Seigneur des maîtres. Non. Il n'est pas seulement le Seigneur d'une catégorie de personnes, il n'est pas seulement le Seigneur d'un secteur de l'univers, d'accord? Il est Seigneur de cette partie du monde, la France. Non, pas la France. Il est Seigneur, on va dire, des États-Unis. Puisque la devise, quand même, la devise des États-Unis, in God we trust. Alors, il est Seigneur des États-Unis, mais il n'est pas Seigneur de la France. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pas vrai. Il n'est pas Seigneur que d'un secteur de l'univers ou du monde. Il n'est pas Seigneur d'une partie du calendrier, le dimanche, et pas les autres jours de la semaine. Il est Seigneur de Noël et de Pâques, mais pas de la fête du travail. D'accord? Non, il est le Seigneur du cosmos tout entier. Et du fait de cette suprématie de Jésus, toute situation familiale ou professionnelle qui soit moralement licite, hein, moralement légitime, constitue une vocation à part entière dans le royaume de Dieu. D'accord? Jésus est le Seigneur des hommes qui sont pères. Jésus est le Seigneur des femmes qui sont mariées, qui exercent leur vocation en tant que femmes. Il est le Seigneur des maîtres qui ont des employés. mais il est le Seigneur aussi des employés qui ont des maîtres. Il est le Seigneur de chaque situation de vie. Et donc, quand on reconnaît qu'il y a cette diversité de vocations dans le royaume de Dieu, ça nous permet, à notre tour, d'envisager toute situation familiale ou professionnelle comme un travail à temps plein pour le Seigneur. D'accord? Quand on aime notre femme en tant que mari, on est en train de le faire pour le Seigneur, dans la crainte du Seigneur. C'est une vocation dans le royaume de Dieu, d'être un mari aimant. On va être un mari tout court. Et si on veut le faire bien dans le royaume de Dieu, on va être un mari aimant. Vous voyez? Dieu valorise tous ses serviteurs, quel que soit leur rôle dans son royaume. Il n'y a pas de supériorité dans le royaume de Dieu au fait d'être marié ou célibataire. Il n'y a pas de supériorité dans le royaume de Dieu au fait d'être une femme ou un homme. Il n'y a pas de supériorité dans le royaume de Dieu au fait d'être un adulte ou un enfant. Il n'y a pas de supériorité dans le royaume de Dieu au fait d'être un esclave ou un maître, un ingénieur, un médecin, un pharmacien, un dentiste, un psychologue, un professeur, un logisticien, un physicien, un pasteur, une mère au foyer, etc. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Il y a diversité de vocations dans le royaume de Dieu. Mais ce que Paul dit à chacun de ses lecteurs, quelle que soit leur situation, il dit, quoi que vous fassiez, faites-le bien, parce que vous le faites pour le Seigneur. Vous le faites dans la crainte du Seigneur. Il est le Seigneur de cette situation. C'est lui que vous servez. On se posait la question un petit peu en introduction, là, comment savoir si Dieu m'appelle à le servir à temps plein? C'est facile. C'est sûr que Dieu vous appelle à le servir à temps plein, ça je peux vous l'assurer. Si tu es chrétien, Dieu t'appelle à le servir à temps plein, mais servir le Seigneur à temps plein, c'est peut-être travailler fort en vue de réussir son concours. Servir le Seigneur à temps plein, c'est peut-être faire un bon travail dans un labo de physique, en tant que chercheur. Servir le Seigneur à temps plein, c'est peut-être rester à la maison, se consacrer à ses enfants en bas âge, pendant que son mari pourvoit aux besoins de la famille. Servir le Seigneur, c'est peut-être aussi, effectivement, partir en Inde, faire un travail missionnaire. C'est peut-être toutes ces choses. Tu travailles pour le Seigneur à temps plein. Donc on a dit qu'il fallait reconnaître la prééminence de Christ, reconnaître la diversité des vocations dans le royaume de Dieu. Il reste encore deux points que je voudrais évoquer un peu plus rapidement. Reconnaître la nécessité de la prière. Reconnaître la nécessité de la prière. Donc Paul, il vient de livrer des instructions concises, brèves, mais assez précises quand même, destinées aux situations de vie les plus courantes de ses lecteurs. Et le but a été de nous montrer qu'il y a diversité de vocations dans le royaume de Dieu, du fait de la seigneurie ou de la prééminence de Jésus dans tous les domaines de la vie. Ok. Maintenant, Paul, il s'apprête à conclure son épître. Il arrive vers la fin de sa lettre. Et cette fois, maintenant, à partir du verset 2 du chapitre 4, Paul va livrer deux dernières instructions destinées, cette fois non pas à des gens dans des situations particulières, mais à tout le monde, à l'ensemble des gens qu'il a mentionnés, maîtres, esclaves, enfants, parents, mari, femme, etc. Et ce sont deux principes essentiels, cette fois, qui concernent la vocation que Dieu nous adresse. Premier de ces deux points, versets 2 à 4, Paul dit très explicitement que la prière est indispensable à la vie chrétienne. La prière est indispensable à la vie chrétienne. Il faut prier avec reconnaissance, dit-il, et notamment, dit-il, il faut prier pour que la parole de Dieu porte du fruit là où elle est proclamée. Donc, on peut ajouter cette leçon aux deux premières, c'est que il faut reconnaître le caractère indispensable de la prière, parce que la prière permet de participer à la réalisation de l'œuvre de Dieu dans notre vie et dans le monde, quelle que soit notre vocation particulière. La prière permet de participer à la réalisation de l'œuvre de Dieu dans notre vie et dans le monde, quelle que soit notre vocation particulière. Il y a des gens qui parlent de la prière comme de la respiration du chrétien. Et c'est une assez bonne image, à mon avis, hein. Parce que, vous vous rappelez, on a dit que Jésus était incroyablement prééminent. Sa prééminence est telle que Jésus est peut-être plus important pour nous que l'air que nous respirons, en fait. Donc ça montre l'importance de la prière qui reflète cette relation que nous avons à Jésus. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui vit en apnée. Là, il ne peut pas faire grand-chose, hein, quelle que soit sa vocation, s'il essaye de le faire en apnée. Donc un chrétien qui veut assumer sa vocation, il a intérêt à prier. Il doit prier. Donc, si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien d'ailleurs, je le sais autour de cette table, avant de savoir si Dieu vous appelle à faire de longues études ou pas, avant de savoir si, de chercher à savoir si Dieu vous appelle à vous marier ou pas, avant de chercher à savoir si Dieu vous appelle à travailler dans le public, ou dans le privé, ou dans la logistique, ou dans la physique, ou dans la médecine, avant de chercher à savoir toutes ces choses, sachez qu'il y a une chose qui est sûre par rapport à ce à quoi Dieu vous appelle, il vous appelle à prier. Il vous appelle à prier dès maintenant, et pour toutes les années qui sont devant vous. Il vous appelle à prier en tant qu'étudiant. Il vous appelle à prier en tant que médecin. Il vous appelle à prier en tant que célibataire ou en tant que marié. Personne mariée. Il vous appelle à prier en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant. Il vous appelle à prier en tant que fiancé aussi. Il vous appelle à prier pour vous-même, pour votre situation familiale ou professionnelle. Il vous appelle à prier pour votre avenir. Il vous appelle à prier pour les gens de votre entourage. Et Paul ajoute qu'il vous appelle aussi particulièrement à prier pour ceux, comme Paul, qui sont appelés spécifiquement à annoncer la parole de Dieu. Donc, il vous appelle à prier pour vos pasteurs, vos anciens, pour les missionnaires que vous connaissiez, les gens qui, comme Jonathan, qui travaillent à temps plein dans la proclamation, la diffusion de la parole de Dieu. Et remarquez une chose, s'il vous plaît. Dans les épîtres, Paul n'encourage pratiquement jamais ses lecteurs à s'engager dans un ministère particulier, le ministère de la parole. Il encourage pratiquement jamais les chrétiens de Corinthe ou d'Éphèse ou de Colosse à devenir pasteur, à faire des études de théologie. Pratiquement jamais, hein. Par contre, il les exhorte à prier pour ceux qui sont dans ces situations-là, qui sont dans le ministère. Autrement dit, vous ne devez pas culpabiliser parce que vous ne ressentez pas d'appel particulier à devenir pasteur, faire des études de théologie, partir en mission, hein. Vous ne devez pas culpabiliser pour ça. Par contre, vous devriez culpabiliser si vous ne priez pas pour ceux qui sont dans ces situations. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur le sujet de la prière, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de notre week-end, mais il faut savoir quand même que la prière, de façon certes mystérieuse, est néanmoins absolument centrale à la réalisation des desseins éternels de Dieu. On parlait tout à l'heure des causes premières, des causes secondes. On ne peut pas changer les décrets éternels de Dieu. Mais dans sa sagesse, un peu mystérieuse, qui nous dépasse en tout cas, Dieu a décrété aussi des causes secondes. Et il fait en sorte que ces décrets éternels s'accomplissent par le moyen de nos prières. Incroyable. Donc c'est absolument essentiel. D'accord ? Et un dernier point. Reconnaître la nature de notre témoignage. Versets 5 et 6 du chapitre 4. Paul ici, il livre donc sa dernière recommandation. Avant de passer aux salutations de sa lettre, vous avez vu à partir du verset 7, ensuite on ne l'a pas lu, mais il va mentionner des gens, il va saluer des personnes en particulier, ce qui est assez ordinaire, classique à la fin des lettres de Paul. Mais avant d'arriver à cette partie-là, une dernière recommandation un peu solennelle, si vous voulez. Et cette recommandation-ci concerne le comportement des chrétiens vis-à-vis des non-croyants. Conduisez-vous avec sagesse, dit-il, envers ceux du dehors. C'est une allusion à ceux qui ne sont pas dans l'Église, les non-chrétiens. Et c'est intéressant ici de voir que pour Paul, cette recommandation concernant la relation des chrétiens avec les non-chrétiens est suffisamment importante pour qu'elle apparaisse à cet endroit de l'épître, à la fin. C'est sa dernière recommandation. Paul vient donc de dire qu'il faut prier pour ceux qui sont dans le ministère de la parole, prier pour que la parole de Dieu porte du fruit là où elle est proclamée, mais maintenant il ajoute que non seulement dans la prière, mais aussi par leur propre comportement, tous les chrétiens ont un rôle important à jouer vis-à-vis des non-croyants. Quelle que soit notre vocation, Paul est en train de nous inciter ici à examiner notre comportement et notamment notre langage. Verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, hein, pour nous assurer que ce comportement, ce langage notamment, constitue un témoignage utile et fidèle auprès des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Je sais pourquoi je pensais à une prédication quand on parlait des emballages tout à l'heure, les emballages des produits discount, parce que c'est dans cette prédication en fait que j'en parle. Et c'est pour ça que c'était frais dans ma mémoire. Eh bien, on a vu donc apparaître ces derniers temps dans les rayons de nos grandes surfaces, Carrefour, Auchan, etc., des produits discount de la marque Auchan, mais dans des emballages discount aussi. Donc on l'a dit tout à l'heure, ils font des économies sur ces emballages. Donc les emballages sont assez moches. Et je vous expliquais tout à l'heure que moi, quand je vois un emballage moche, ça ne me donne pas envie de manger ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? J'en ai même un petit peu peur, franchement, aussi parce que j'ai eu des mauvaises expériences, mais je vois un emballage tout blanc avec des trucs tapés à la machine à écrire dessus, je dis, ça ne me donne pas très envie, quoi. Et on prenait aussi l'exemple des CD de musique. A priori, on a plus envie d'écouter un CD où il y a une belle pochette, bien présentée, tout ça, plutôt qu'un CD gravé avec le nom du chanteur marqué au marqueur dessus, gribouillé dessus, quoi. On se dit, bon, ça n'a pas l'air super, ce CD. Pourtant, la musique peut être exactement la même. Hein. Mais si l'emballage est bien, si l'emballage est beau, ça donne envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, dans ce texte ici, je crois que Paul insiste ici sur l'importance, en tant que chrétien, de présenter un bel emballage. On sait bien que l'habit ne fait pas le moine. Hein? On sait que l'habit ne fait pas le moine. Mais le moine fait l'habit. Il faut méditer là-dessus.
Ça m'intéresse.
Donc l'habit n'est pas une garantie du moine qui est dedans. Enfin, par contre, s'il y a un moine dedans, forcément l'habit va être différent, normalement. Et en tant que chrétien, évidemment que l'apparence ne garantit rien concernant le cœur d'une personne. On sait que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais un chrétien, néanmoins, il doit chercher à avoir une bonne apparence, entre guillemets. Je parle bien sûr pas seulement d'une, même pratiquement pas d'une apparence physique, mais l'apparence que donne notre comportement et notre langage. C'est ça que dit Paul ici. Parce que c'est ça qui va donner envie aux personnes du dehors de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un genre de témoignage. La qualité de notre vie sert de témoignage. C'est vraiment ce qu'il dit là. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et il y a une allusion ici à la parole de Jésus, vous êtes le sel de la terre, mais je laisserai Jonas développer ce point dimanche matin. Quelle que soit notre vocation, nous sommes donc à temps plein pour le Seigneur. Et le croyant, quelle que soit sa situation familiale ou professionnelle, par conséquent, ne se comporte pas comme un non-croyant. D'accord? Dans son métier, il va travailler dur. Dans ses études, il ne va pas tricher. Dans son rapport avec les autres, il va être serviable, patient, la parole assaisonnée de sel, d'accord, accompagnée de grâce. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est moine. Le moine fait la vie. Il ne ment pas, il ne se plaint pas, il ne dit pas de grossièreté. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. On développera ce point beaucoup plus en détail demain matin. On va voir. Hein?
Chouette.
Ouais, voilà. Pour conclure, hein, on disait en introduction qu'on se demandait parfois quelle vocation Dieu nous appelait, à quelle vocation il nous appelait, quoi. Quel métier il nous appelle, voilà. Quelle est ma vocation, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie, Seigneur? C'est une question qui peut tourmenter des jeunes adultes en particulier qui commencent les études, tout ça. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on se laisse peut-être inutilement tourmenter par cette question, en fait. Parce que la Bible nous montre finalement que la question de notre future situation familiale ou professionnelle importe moins pour Dieu que la qualité de notre vie. Dieu ne nous dit pas tant quoi faire de notre vie que comment le faire. Et il veut que nous le fassions bien. À condition, 1, on l'a dit, de reconnaître la prééminence de Jésus dans tous les domaines. Deuxièmement, de reconnaître qu'il y a diversité de vocations dans le royaume de Dieu. Troisièmement, de reconnaître le caractère indispensable de la prière, hein, quelle que soit notre activité. Caractère indispensable de la prière. Et finalement, quatrièmement, de reconnaître que la qualité de notre vie est un témoignage. Encore une fois, dans quelque activité dans quelque activité que ce soit. Dieu vous laisse franchement la liberté et la responsabilité de poursuivre la vocation que vous désirez, à condition qu'elle soit moralement licite. légitime. Seulement, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen.